Nous sommes plusieurs dans cette salle d'avoir eu le privilège d'avoir été à Jérusalem. Jérusalem, qui c'est presque un mot magique, mais tout le monde sait où ça se trouve. Un endroit en altitude, la municipalité qui se situe à environ 800 mètres d'altitude, éloignée de 33 kilomètres de la mer Morte, qui est déjà 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Jérusalem, qui possède un climat méditerranéen, est dans une moindre mesure montagnard, et qui est marqué par une forte chaleur et une forte aridité en été. Je ne sais pas si c'est l'écho. Seuls quelques mois en hiver sont humides, et en particulier en février, où tombe plus de la moitié des précipitations totales annuelles. De temps à autre, pas trop souvent, mais de temps à autre, il y a la neige, il peut y avoir la neige. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la fête, mais je vais aussi vous parler de Jérusalem. Et je vais aussi parler, dans un certain contexte, de la montée, ce que la Bible appelle la montée à Jérusalem, parce que Jérusalem a de l'importance aux yeux de Dieu. Je vais prendre, mon sermon va se diviser en trois parties, si vous voulez. Je vais prendre le passé. Déjà, Jérusalem était déjà très importante aux yeux de Dieu dans le passé. C'est assez emphatique. Je vais parler du présent, ce qui nous concerne, et je vais parler de l'avenir. Jérusalem, l'importance de Jérusalem à l'avenir, et nous allons aussi voir un certain nombre d'écritures qui vont parler de la fête des trompettes. Si vous regardez deux chroniques, je ne m'y rapporte pas, mais deux chroniques chapitre 6 et le verset 6, Dieu dit, j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résida. J'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résida. Psaume 48, parle de belle est la colline, joie de toute la terre. Et puis on arrive à Ésaïe, chapitre 40, verset 2. Là encore, je ne m'y rapporte pas, je vous le lis, les quelques versets. Mais on voit ici où est le cœur de Dieu, que le cœur de Dieu est pour Jérusalem. Ésaïe, chapitre 40, verset 2. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Jérusalem qui a beaucoup souffert, qui souffre encore, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaines et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair le verra. Et le Christ, quand il revient, toute chair le verra quand la bouche de l'Éternel a parlé. Et ensuite, dans le verset 9, nous lisons ceci. Le verset 9 et le verset 11 qui montrent le zèle et le courage que l'Église devrait avoir en prêchant justement cette bonne nouvelle, montent sur une autre montagne, Sion, Jérusalem, la même chose, pour publier la bonne nouvelle, élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle, élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, nous sommes à la fête des trompettes, et de son bras il commande, voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Et puis, vous pouvez lire aussi le verset 11, que je ne vais pas lire maintenant. Mais allons à Ésaïe, chapitre 62, verset 1. On va lire ce verset, ou ces versets. Ésaïe, chapitre 62, et le verset 1. Et on voit ici l'amour de Dieu pour Jérusalem. Si Dieu aime Jérusalem, Jérusalem est très importante. Ésaïe, chapitre 62, verset 1. Ésaïe a des prophéties magnifiques, écrites d'une façon parfois poétique. Ésaïe chapitre 62, verset 1, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. » C'est Dieu qui parle. « Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. » Verset 7. « Et ne lui laissera aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. » L'avenir donc de Jérusalem, qui de nos jours n'a pas été glorieuse, sera glorieuse à l'avenir. « Et la rende glorieuse sur la terre, l'Éternel a juré par sa droite et par son bras puissant, je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et le fils de l'étranger ne boira plus ton vin, produit de tes labeurs. Mais ceux qui ont amassé le blé le mangeront, ils loueront l'Éternel, et ceux qui ont récolté le vin le boiront dans le parvis de mon sanctuaire. » Donc, il y a toutes ces écritures qui montrent à quel point Jérusalem est important aux yeux de Dieu. Et puis, vous avez l'amour de Christ pour Jérusalem. Ça, nous trouvons dans Luc 13. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Cet amour maternel, on pourrait presque dire, de la part du Christ pour Jérusalem. Et quand le Christ va revenir, Jérusalem, quand Christ revient sur la montagne des Oliviers, Jérusalem va devenir la capitale du monde. Cette première partie du serment, comme j'ai dit, c'est sur le passé, il y a un certain nombre d'écritures. Et de Deutéronome chapitre 17 et le verset 8, nous voyons déjà que Jérusalem était centrale, allait être centrale pour la nation d'Israël. Deutéronome chapitre 17, le verset 8. Parce que bien sûr, quand Deutéronome était écrit, ils étaient encore dans le désert, mais c'est par la suite, ils allaient appliquer ceci à leur état, à leur pays, quand ils auront hérité leur pays. Deutéronome chapitre 17, le verset 8. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure, te paraît trop difficile à juger, et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Là, on trouve l'expression « monter au lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira ». Et ça allait être justement Jérusalem par la suite. Tu iras vers les sacrificateurs, les lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qui te diront dans le lieu, il se répétait, dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qui t'enseignera. Jameson, Fawcett et Brown parlent comme quoi ils allaient monter aux environs du sanctuaire. Parce que parfois, par la suite, le Urim était consulté et il fallait que ce soit fait par les sacrificateurs. Il y a un autre commentaire, Gilles, qui parle comme quoi il devait aller justement à Jérusalem par la suite, bien sûr, où les juges pouvaient juger ces affaires de contestation. Et Barnes parle également, commentaire Barnes parle également du sanctuaire et que les juges allaient être là. Vous pouvez regarder 1 Chronique chapitre 15 verset 3, je m'y rapporte pas. 1 Chronique chapitre 15 verset 3 et vous verrez que l'arche de Dieu était emmenée par la suite par David. Vous rappelez que l'arche n'a pas toujours été à Jérusalem, mais l'arche de Dieu était donc portée, était montée à un moment donné à Jérusalem. Et puisque nous sommes toujours dans le passé, nous allons regarder, si vous voulez bien, deux psaumes, deux psaumes, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament, le psaume 120 et le psaume 122. Si vous regardez le psaume 120 et le psaume 134, vous constaterez que ce sont ce que la Bible appelle des cantiques de degrés. Et j'ai ici mon synodal, et le synodal dit ceci, en se référant à ces 15 psaumes, dans le psaume 120 déjà, il parle des cantiques des pèlerinages, cantiques des pèlerinages. Et puis il y a un petit commentaire avec par exemple, le psaume 21, prière de pèlerin à son départ pour Jérusalem. Et puis le psaume 122, le chant de pèlerin à son arrivée. Mais Crampon parle de cantique de montée, cantique pour les montées. Et effectivement, c'était des chants, ça pouvait être des chants religieux d'après le mot, à un endroit qui était élevé, Jérusalem, qui était élevé justement. Notre compréhension depuis de nombreuses années, c'est que ces cantiques, les cantiques, ce qu'on appelle parfois les cantiques de pèlerins, notre compréhension depuis de nombreuses années, c'est que ces chants, ces cantiques étaient chantés par les pèlerins dans leur voyage à Jérusalem. Dans leur voyage à Jérusalem, parce que vous rappelez, Dieu a dit que trois fois au cours de l'année, il fallait aller justement au lieu que Dieu avait choisi. Et le thème dominant avec ces 15 psaumes, le thème dominant, c'est la confiance en Dieu. Quelles que soient les circonstances, même quand il y avait la guerre, c'était la confiance en Dieu. Parce qu'il peut y avoir des mauvaises surprises. On va regarder ça rapidement, tout au moins le psaume 120 rapidement. Le verset 1. Donc j'ai voulu prendre seulement deux de ces psaumes qui a à voir avec le fait de monter à Jérusalem, parce que Jérusalem, c'était le centre de la nation, par la suite. Psaume 120, et le verset 1. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Déjà à l'époque, il y avait des mensonges, il y avait des lèvres mensongères. L'Israël pouvait regarder le monde autour d'eux, et ils anticipaient un endroit où il allait y avoir la paix, Jérusalem. Et bien sûr, il y a un parallèle pour nous. Notre monde s'éloigne de Dieu de plus en plus. Notre monde prend son propre chemin de plus en plus. Et nous pouvons donc aller à la fête, chaque jour de fête, pas uniquement la fête des tabernacles, mais chaque jour de fête, nous pouvons aller vers Dieu et laisser le monde derrière nous. Il est important que nous laissions le monde derrière nous. Éternel, verset 2. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse, que te donne, que te rapporte une langue trompeuse, les traits aigus du guerrier avec les charbons ardents du gêné. Verset 5. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar, aussi longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Et ils étaient donc parfois ils avaient des ennemis dans un territoire qui était plutôt hostile. Il peut y avoir la persécution avant de monter à Jérusalem, justement, pas uniquement pour la fête des tabernacles, mais comme j'ai dit, trois fois au cours de l'année. Le mot séjourner, ici, dans le verset 5, malheureux que je suis de séjourner à Meshek. Barnes précise que ce mot ne dénote pas une demeure permanente, mais se réfère généralement à une demeure temporaire. Par exemple, quand on voyage. Quand on est un pèlerin, quand on est étranger, et quand on est dans la nécessité de passer une nuit dans un pays étranger, en allant vers sa destination. En allant vers sa destination. Verset 6. Aussi longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Verset 7, je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Nous désirons la paix. Nous désirons la paix pour chaque jour de fête. Et Jérusalem, justement, veut dire fondement de la paix. Fondement de la paix. C'était un oasis pour eux, pour ceux qui voyageaient, les pèlerins qui voyageaient à Jérusalem. C'était un oasis pour eux. Ils pouvaient laisser leurs problèmes derrière eux. Nous, c'est pareil. Les fêtes de l'Éternel, pas uniquement la fête des tabernacles, les fêtes de l'Éternel devraient être des oasis de paix pour le peuple de Dieu. Nous voulons être à la fête dans la paix. Nous voulons avoir une fête paisible. Et ne pas laisser à Satan le fait de créer des problèmes. Et si nous voulons vraiment nous réjouir à la fête et faire des trompettes, le fait des expiations et la fête des tabernacles, nos fêtes devaient être orientées vers Dieu. Laisser le monde derrière nous. Et chaque jour de fête. On va regarder psaume 122. Donc tout ceci, c'est le passé. Où il était question à l'époque déjà de monter vers Jérusalem pour observer les fêtes de l'Éternel, trois fois au cours de l'année. Psaume 122, cantique de degrés de David. Et on voit ici la joie des pèlerins lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem. Cantique des degrés de David, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. » Dans la joie, ailleurs c'est traduit par « rempli de joie ». Le même mot est ailleurs traduit par « rempli de joie ». C'est le mot utilisé, vous vous rappelez, quand Saul a libéré Jabès au début de son règne. C'est traduit par « rempli de joie ». Que les gens de Jabès étaient remplis de joie parce qu'ils savaient que Saul allait devenir. Donc la fièvre de la fête, et pourquoi on est dans la joie? Pourquoi les enfants d'Israël étaient dans la joie? Parce qu'ils anticipaient le fait d'être instruits, ils anticipaient le fait d'être ensemble avec d'autres personnes qu'ils n'avaient pas vues depuis peut-être des mois, et ils savaient à quel point ils avaient besoin de cette paix, de cette fête à Jérusalem. La maison de l'Éternel, où c'est marqué, je lève mes yeux donc vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Excusez-moi, je suis dans le psaume 121. Le psaume 122. Cantique de degré de David, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Il parle ici de la maison de l'Éternel. Et déjà à l'époque, avant le tabernacle, avant la construction du tabernacle qui était après David, il y avait la tente pour l'arche de Dieu, ou ce que la Bible appelle aussi l'arche de l'Alliance. Et dans l'arche de l'Alliance, il y avait la présence de Dieu dans le lieu très saint. Et vous vous rappelez que Dieu avait dit, j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Et ailleurs, c'est marqué lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation, pour parler à l'Éternel, et il parlait à l'Éternel. Donc Dieu était là, sa présence était là, dans le lieu très saint, et c'est pour ça que Aaron et les autres souverains sacrificateurs ne pouvaient y aller qu'une fois par an. La présence même de Dieu. Donc les gens allaient à Jérusalem, où Dieu y était. Où Dieu y était. D'où l'importance de Jérusalem. Et dans le verset 2, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. C'était une attitude convertie. Les gens étaient contents d'être arrivés là aussi. C'était le but final. Verset 3, Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Le Martin dit ceci. Jérusalem qui est bâti comme une ville dont les habitants sont fort unis. C'est aussi un but à la fête. Jérusalem qui est bâti comme une ville dont les habitants sont fort unis. Que ce soit chaque jour de fête, que ce soit la fête des tabernacles. Verset 4, c'est là que montent les tribus de l'Éternel selon la loi d'Israël pour louer le nom de l'Éternel. Par l'Israël dans son ensemble. Ici, quand c'est marqué selon la loi d'Israël, dans le Shohaki, c'est traduit par le témoignage d'Israël. On trouve le mot témoignage. Et on trouve ce mot témoignage quand il s'agit des deux tables de témoignage que Moïse a descendu du mont Sinaï. Il a pris le témoignage et le plaça dans l'arche. Et nous, on va au lieu de fête, on va aux fêtes, à l'époque c'était à Jérusalem, nous on va aux fêtes pour apprendre justement la loi de Dieu, ses voies, et pour être dans la joie, parce que nous pouvons apprendre les lois de Dieu. Et à la fin du verset 4, c'est marqué « pour louer le nom de l'Éternel ». Donc ces pèlerins allaient à Jérusalem, entre autres, pour louer le nom de l'Éternel. Nous allons à chaque jour de fête pour louer le nom de l'Éternel, pour être nourris, pour se réjouir, pour être fortifiés et pour être instruits. Verset 5. Car là, Jérusalem donc, car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. La loi de Dieu était administrée sur un plan religieux, mais aussi sur un plan civil. Et c'était administré à l'époque à Jérusalem, justement. Il parle ici, les trônes pour la justice. Les trônes de la justice, parce que justement, il y avait aussi le gouvernement civil à Jérusalem. Et les juges, parce qu'il parle ici, les trônes pour la justice, les juges principaux à l'époque étaient les rois. C'est marqué, par exemple, à propos de David. David régna sur Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Donc, ce sont les trônes de la justice. Le côté civil aussi, pas uniquement religieux. David régna sur Israël, il faisait droit et justice à tout son peuple. Et nous sommes familiers avec ce que Salomon a fait avec les deux femmes prostituées quand ils ont disputé à qui appartenait leur enfant. Tout Israël, et Salomon a tranché, tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Il y avait un jugement aussi sur un plan civil. Verset 6. Demander la paix de Jérusalem, c'est important. D'aller à un endroit de paix, c'est important pour nous avoir les fêtes dans la paix. Demandez la paix de Jérusalem, de ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. C'est le désir de David pour la paix, ça devait être notre désir d'avoir les fêtes de paix. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans son sein, à cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu. Je fais des vœux pour ton bonheur. Je trouve le verset 8 et le verset 9 intéressants. Parce que vous avez, pour ainsi dire, les deux grandes lois de Dieu qui sont mentionnées ici. Premièrement, dans le verset 8, à cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans son sein. Le fait d'aimer son prochain. Le fait d'aimer son prochain, la grande loi de Dieu. Et bien, dans le verset 9, à cause de la maison, donc il demande la paix, à cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu. Parce qu'il aime Dieu. C'est l'amour pour Dieu. Et c'est pour ça qu'il veut aussi la paix. Nous montons à la fête des trompettes, la fête des expiations, peut-être, quel que soit l'endroit. Et nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Comme c'est marqué dans Pierre, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il y a beaucoup de choses qui font la guerre à l'âme et nous devons laisser ces choses derrière nous quand nous venons aux fêtes de l'Éternel. Un oasis, les fêtes sont un oasis pour que cette guerre ne nous influence pas. Nous montons vers l'Éternel, revenons juste à Deutéronome chapitre 14 verset 23 et ensuite on va aller dans le Nouveau Testament. Deutéronome chapitre 14, le verset 23. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans des consignes à l'époque, dans le lieu qu'il choisira, et plus tard dans leur histoire, ça allait être à Jérusalem, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Et la Bible est très emphatique. Il fallait aller à l'endroit où Dieu a placé son nom. Verset 24. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Verset 25. Alors tu échangeras la dîme contre l'argent, tu serras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. C'est très emphatique, c'est souligné, d'aller à l'endroit que Dieu a choisi, et par la suite, comme j'ai dit, ça allait être à Jérusalem. Et dans Deutéronome chapitre 16, verset 15, nous trouvons un peu le même langage. Donc, j'ai déjà parlé de ceci. Et nous allons maintenant arriver au Nouveau Testament. Il faut comprendre que le fait d'aller à Jérusalem, en Israël, à l'époque, c'était un voyage. Ça pouvait être même un grand voyage. Et déjà, et toujours à l'époque du Christ, nous voyons ça dans Luc chapitre 2, verset 41, vous vous rappelez que le Christ, en tant que garçon, il avait 12 ans, est allé à faire ce voyage pour aller à Jérusalem. Jérusalem, qui est toujours un endroit important aux yeux de Dieu. Dans Luc chapitre 2, verset 41, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. C'était pas uniquement la fête des tabernacles, c'était aussi à la fête de Pâques. Et vous rappelez que Jésus-Christ, le Christ, habitait Nazareth. Si, d'après Google, il y a 137 kilomètres entre Nazareth et Jérusalem. Et Google parle de 30 heures de marche. Mais c'est certain que ce n'est pas dans une seule journée que vous pouvez faire un voyage pareil. C'est plus loin, pour mon auditoire présent, c'est plus loin que Genève-Neuchâtel, c'est plus loin que Bordeaux-Bergerac, et c'est plus loin, nettement plus loin, que Paris à Orléans. Donc, c'était un voyage, et à l'époque, ils allaient à pied, et c'était leur coutume. Et il avait son ministère dans Galilée, souvent, et il dit à ses frères, à un moment donné, montez-vous à cette fête. Montez-vous à cette fête, la fête des tabernacles. Et lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même. Non publiquement, mais comme en secret. La dernière Pâque, c'était aussi à Jérusalem. Sa crucifixion, c'est dans les environs de Jérusalem. Donc, Jérusalem reste central. Jérusalem reste important et sera toujours, toujours important pour Dieu. Et était déjà importante pour l'Église après la mort du Christ. Dans Actes chapitre 8, verset 14. Jérusalem a tenu donc une place importante. Il y a l'hiérarchie aussi de l'Église qui est mentionnée. Acte chapitre 8, verset 14, c'était le siège. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, donc le siège à Jérusalem, c'est logique, c'est important aux yeux de Dieu. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, bon, il y avait l'évangélisation, mais le siège était toujours à Jérusalem, qui était à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Et nous avons cette même structure dans l'Église. Nous avons un siège qui est central. C'est l'histoire de l'Église aussi. Après la conversion de Paul, si vous regardez Galates chapitre 1, verset 18, après la conversion de Paul, Paul est allé où? Il est allé à Jérusalem. Galates chapitre 1, verset 18. C'est un résumé ici de son histoire. Il n'est pas allé tout de suite, mais il est allé, verset 18. Galates chapitre 1, verset 18. Il était instruit par le Christ, puis ensuite il est allé à Jérusalem. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem Verset 17, déjà, pour voir un peu le contexte. « Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. » 3 ans plus tard, il a fini par y aller, verset 18, « 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, mais je demeurai 15 jours chez lui. » Mais c'est Jérusalem, là, il y avait le siège, comme on vient de voir dans Actes chapitre 8. Et si nous regardons toujours Galates chapitre 2, verset 1, 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Mais il monte à Jérusalem. On trouve cette expression à plusieurs reprises dans la Bible. J'y montai, je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, là il y a le siège, les plus considérés, afin de ne pas courir ou en avoir couru en vain. Nous sommes familiers avec Actes chapitre 15. Actes chapitre 15, c'était la conférence, il y avait une dispute, tout le monde n'était pas d'accord. Et Actes chapitre 15, il y avait une conférence ministérielle pour trancher. Pour trancher. Et c'était à Jérusalem. Jacques était l'évêque de Jérusalem, celui en charge de l'église de Jérusalem. Actes chapitre 15, verset 23. Et nous voyons, nous connaissons Actes chapitre 15, nous savons ce qui s'est passé. Dans Actes chapitre 15, verset 3, ils les chargèrent, donc Paul et Barnabas, Jude, Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères, ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Et ensuite, il parle, à partir du verset 24, un résumé de ce qui s'est passé, et ensuite, la décision qu'ils ont prise à ce sujet. Mais c'était une lettre qui donnait l'autorité. Donc tout ça, c'est le passé, que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, on voit le point central de Jérusalem. Et parfois, ils montaient à Jérusalem parce qu'une décision avait besoin d'être prise. On arrive maintenant au présent. Et au présent, nous le trouvons dans Hébreux chapitre 12 et le verset 22. Hébreux chapitre 12 et le verset 22. On parle ici à des chrétiens, c'est peut-être Paul donc qui a écrit Hébreux, qui parle à des chrétiens. Mais je saute au milieu d'un contexte. Mais verset 22. « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, donc Sion, Jérusalem, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. » Si on se réfère justement, c'est un endroit littéral, physique, mais c'est aussi symbolique et c'est un type de demeure de Dieu, qui est aussi donc un endroit qui est aussi qui a à voir avec l'Église. L'Église, c'est Sion spirituel. Donc ce passage se réfère à ceux qui ont été appelés du monde. Verset 22, donc je relis, « Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. De l'assemblée, là c'est très spécifique, et on voit bien qu'il s'agit de l'Église, de nous, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. » Et on sait bien que les premiers-nés, le peuple de Dieu, ceux qui sont convertis, ils ont le nom inscrit dans le livre de vie. Inscrit dans les cieux du juge qui est le... On approche donc du juge. Notre juge, c'est qui? C'est Dieu. Du juge qui est le Dieu de tous. Et ça, c'est magnifique. C'est une écriture qui est très encourageante parce que notre juge est Dieu. Et Dieu est notre Père. Et vous imaginez être jugé, peut-être pour quelque chose que vous avez fait, et d'être devant votre Père. Votre Père qui, est logiquement, est de votre côté. Logiquement, qui va vous aider de tous les moyens, comme il peut. Notre juge, c'est Dieu. Mais Dieu est aussi notre Père. Et c'est important pour nous de nous rappeler ceci. Le verset de l'Assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux du juge, qui est le Dieu de tous, les esprits des justes parvenus à la perfection de Jésus, parce que le Jésus-Christ est notre médiateur, c'est notre celui qui nous défend aussi. Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc il parle ici de Sion dans un contexte spirituel, il parle de l'Église de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu aujourd'hui, le temple spirituel de Dieu. Monsieur Angelo a parlé la semaine passée sur le côté physique, mais nous sommes le temple spirituel de Dieu, et un temple spirituel de Dieu devrait être stable, mais nous avons besoin aussi, bien sûr, de prier, de fournir un effort pour que l'Église de Dieu soit un endroit de paix, où on cultive la paix. Ça, c'est donc le présent, où il est question de Jérusalem, où il est question de Sion. Allons maintenant à l'avenir. On va maintenant arriver aussi à la fête des trompettes. Parce que Jérusalem a toujours joué un rôle majeur. Et à l'avenir, Jérusalem va jouer un rôle majeur à l'époque de la fin que dont nous avons parlé tout à l'heure, dans Zacharie chapitre 14, le verset 1. Zacharie chapitre 14, le verset 1. Mais nous allons voir ici, entre autres, la fête des trompettes. Zacharie chapitre 14, le verset 1. Voici le jour de l'Éternel arrive. Nous comprenons bien que la fête des trompettes, comme c'était dit dans la prière, a à voir avec le retour du Christ. Préfigure le retour du Christ. Voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles sont partagées au milieu de toi. L'époque de la fin, donc, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise des nations, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Verset 3. L'Éternel paraîtra, la fête des trompettes. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Et où est-ce que le Christ revient? Il revient, il pose ses pieds sur la montagne des Oliviers, qui est juste à côté de Jérusalem. Et le Christ, on avait vu dans Ésaïe à quel point Dieu aime Jérusalem, et le Christ va délivrer sa ville bien-aimée. Verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient, donc juste à l'est. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le Midi. Et là sera installé le trône de Dieu. Le trône de Dieu sera installé à Jérusalem. Verset 8. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer orientale. Il en sera ainsi été et hiver. Cette fleuve qui va guérir la mer morte, qui va guérir tout ce que ça va toucher. Verset 10, tout le pays deviendra comme la plaine, mais c'est à partir de Jérusalem, justement, à partir du trône de Dieu. Verset 10, tout le pays deviendra comme la plaine de Geba à Rimmon, au midi de Jérusalem, et Jérusalem sera élevé et restera à sa place. Jérusalem est déjà élevé à 800 mètres à peu près. Et là, nous voyons dans le verset 10, avec le retour du Christ, que la terre autour de Jérusalem sera nivelée et que la ville elle-même sera rehaussée. Et Jérusalem sera élevée, donc plus élevée de ce que nous voyons maintenant. Et les gens vont pouvoir monter justement à Jérusalem, verset 16, Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année, nous trouvons de nouveau cette expression, monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Monteront chaque année. Je ne sais pas si vous avez regardé notre brochure sur les fêtes avant de venir. La brochure sur les fêtes dit ceci, comme titre pour la fête des trompettes. C'est marqué, la fête des trompettes, alarme de guerre et annonce de paix. Alarme de guerre et annonce de paix. Parce que la fête des trompettes, il y a ces deux significations. Il y a la guerre, comme on vient de voir dans Zacharie 14. Les gens vont s'opposer au Christ, mais le Christ va installer la paix. Et tout ça va commencer à Jérusalem. Verset 12. Toujours Zacharie chapitre 14, verset 12. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui ont combattu contre Jérusalem, donc la guerre. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds, les yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites et la langue tombera en pourriture dans leur bouche. Et en ce jour-là, l'Éternel produira un grand trou parmi eux. L'un saisira la main de l'autre et ils lèveront la main les uns sur les autres. La fête des tabernacles, verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année. Donc ils vont revenir, mais dans un autre esprit, dans un autre contexte, parce que le Christ sera revenu. Ils monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Il y a ces deux choses qui vont de pair. Premièrement, pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, puisque le Christ revient à Jérusalem. Et deuxièmement, pour célébrer la fête des tabernacles. Deux thèmes, et deux thèmes que nous pouvons aussi voir lors de chaque jour de fête. Verset 17, c'est développé. Verset 17, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem, toujours Jérusalem qui est le point de mire, le point central. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Et le fait de monter à Jérusalem est répété à plusieurs reprises. Ésaïe chapitre, on va regarder plus de vos chapitres, Michée chapitre 4 verset 2, il y a Ésaïe chapitre 2 verset 2 et 3, et aussi en parallèle Michée chapitre 4 et le verset 2. Michée chapitre 4 et le verset 2. La culture avec laquelle nous sommes très familiers, il y a quelque chose d'intéressant ici, qu'on peut dégager de ces versets. Verset 2. Michée chapitre 4 verset 2. Les nations s'y rendront en foule. Il parle de la maison de l'Éternel déjà dans le verset 1, donc ça situe le contexte, sera fondé sur le sommet des montagnes. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel. Jérusalem, qui sera de plus en plus centrale, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Je trouve ça intéressant parce que les gens vont prendre une voie pour monter vers la montagne de l'Éternel, pour monter vers Dieu, et ils vont prendre une voie qui sera physique. Et parce qu'ils prennent une voie qui sera physique, c'est le même principe pour nous quand nous venons en fête, nous prenons une voie, un chemin qui est physique. Nous venons devant Dieu, nous demandons la présence de Dieu, et donc ils vont prendre, comme nous nous prenons maintenant, cette voie physique. Et parce qu'ils prennent une voie physique, nous voyons la suite dans le verset 2, Je reprends le verset 2. Les nations s'y rendront foule et diront, venez et montons, physique donc, à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Prends voie physique pour que Dieu nous envoie, pour que Dieu nous montre, nous donne des voies spirituelles, afin qu'il nous enseigne ses voies, les voies de Dieu. On monte physiquement pour être instruit spirituellement. À la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Pourquoi? Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et Dieu sera, quand les gens vont faire ceci, Dieu sera le centre de leur vie pour pouvoir connaître les voies de Dieu. Et nous, Dieu devrait être le centre de notre vie déjà maintenant. On parle, le serment, c'est sur Jérusalem, aussi sur la fête des tempêtes, mais la nouvelle Jérusalem, à l'époque future, donc il va y avoir la nouvelle Jérusalem. C'est toujours le point de mire, au-delà du physique, quand Dieu va faire sa demeure avec les êtres qu'il a créés. Quand Dieu va faire sa demeure avec les êtres qu'il a créés, quand Jérusalem, pardon, Jérusalem céleste sera là, ce sera un vrai joyau. Un vrai joyau. J'ai voulu conclure avec deux versets. Deux versets que nous trouvons dans Néhémie. On va peut-être s'y rapporter. Et qui envoie avec la fête des trompettes. Qui envoie avec, qui avait à voir avec la fête que nous connaissons aujourd'hui, dans Néhémie, chapitre 8, et le verset 10. Néhémie, chapitre 8, et le verset 10. On va regarder tout le contexte, le verset 9. Néhémie, donc chapitre 8, et le verset 9. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, les scribes, les lévites qui enseignaient le peuple, diras-tu le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel. La fête des trompettes, comme les autres fêtes, est consacrée à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation, dans les larmes, parce que c'est un jour de joie. Car tout le peuple pleurait, évidemment, ils apprenaient ces choses qu'ils avaient oubliées. Ne soyez pas dans la désolation, dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ces paroles qu'ils avaient oubliées, qu'ils ne pratiquaient plus. Verset 10. Ils leur dirent, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel que nous connaissons aujourd'hui, parce que c'est une fête, justement, de l'Éternel, la fête des trompettes. Nous allons tout à l'heure, je pense, manger des viandes grasses et peut-être boire des liqueurs douces, je ne sais pas, mais nous allons festoyer dans un bon sens, un bon contexte. Nous n'allons pas, malheureusement, pouvoir envoyer des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, mais ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et puis ensuite, dans le verset 11, déjà les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas, c'était pas un jour d'affliction, c'est un jour de joie, la fête des trompettes. Et tout le peuple s'en alla pour manger et pour boire. Je suis en train de voir ici, je pense que c'était à Jérusalem. Verset chapitre 8, verset 1. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Il dit à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrit par l'Éternel à Israël. Donc ils se sont réunis. Verset 12. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire. Donc ils ont mis en pratique ces instructions. Pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. La fête était devenu, je dis bien devenu parce qu'on a expliqué un certain nombre de choses, ils étaient dans la tristesse, et ils sont maintenant dans la joie. Et pourquoi ils étaient dans la joie? Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Donc, ils ont saisi l'aspect spirituel de la fête. La fête était pour eux une fête spirituelle. Et la fête des trompettes, comme les autres fêtes, doit être pour nous une fête spirituelle où nous nous réjouissons parce que nous comprenons bien qu'il s'agit du retour de Jésus-Christ sur cette terre malheureuse.